avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de la semaine, faut-il s'inspirer des pays nordiques pour être heureux? Que ce soit la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège ou encore l'Islande, les pays nordiques sont souvent cités en exemple comme des pays où il fait bon vivre. Avec ou sans Covid-19, la Finlande reste d'ailleurs en tête du classement des pays les plus heureux au monde. Dans le froid, la nuit, plusieurs mois de l'année, on connaît de loin finalement le plaisir de vivre dans des maisons simples, chaleureuses, sans luxe apparent, les joies des activités dans la nature, mais aussi un certain modèle égalitaire dans la société, dans les entreprises aussi, avec son management plus horizontal, ses horaires qui favorisent la vie de famille. Alors, au-delà des clichés, le modèle nordique, avec ses politiques sociales qui ont inspiré d'ailleurs plusieurs lois en France, est-il encore une alternative au libéralisme à l'anglo-saxonne? Ce modèle est-il soluble dans la mondialisation ou le monde devrait-il s'inspirer de ce modèle, notamment dans une période de pandémie où l'inquiétude est partout? Sur quoi repose réellement ce bonheur nordique? On va en discuter avec nos invités. Nicolas Escache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, urbaniste, vous publiez « La France à l'heure nordique » aux éditions Les Pérégrines et vous êtes spécialiste des pays scandinaves et vous êtes aussi co-rédacteur en chef de la revue Nordique. Méline Ridal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danoise, auteure, conférencière, spécialiste du bien-être et de la performance en entreprise. Et vous avez publié il y a quelques années un livre qui a eu un immense succès à l'époque, « Heureux comme un Danois » chez Grasset. On vous a lu, ça ne veut pas dire que nous sommes capables d'appliquer les recettes du bonheur danois, mais c'est vrai que les Français les connaissent. Et on va donc en discuter dans quelques instants. Nous serons aussi en ligne avec notre correspondant en Suède, Frédéric Faux. Il vit à Stockholm depuis plus de 4 ans. Il nous expliquera pourquoi il a décidé de s'installer dans un pays nordique après plusieurs années passées en Amérique du Sud. Et en fin d'émission, un tout autre sujet, notre rendez-vous régulier. On donne la parole aux enfants qui nous parlent de leur vie, de leur vision du monde. C'est peut-être finalement très nordique ça, de donner la parole aux enfants. En tout cas, on les écoute chez nous, chez 7 milliards de voisins. Le monde des enfants ou leur inquiétude face à l'avenir, ça sera le sujet du jour et c'est une chronique qui est proposée par Charlie Dupio.
Time for Hugo.
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 Détends-toi. Hein.
Un bon feu, une bière brassée, une belle pièce de viande.
Pour moi, ça sera un bien chaud.
Je suis très déco scandinave à la maison déjà. J'ai des petits bougeoirs en bois, c'est dans les couleurs rose et bleu, j'ai des petits vases un peu partout.
Ouais, cocooning, du bois, des tissus, même dans les lainages, on retrouve des choses quand même assez chaleureuses dans les matières, dans les couleurs.
On peut jouer sur les volumes, on peut jouer sur les matières, mais c'est vrai que ça peut ailler l'intérieur et on amène un peu du Danemark chez soi, donc de la bonne humeur, de la convivialité et du bon vivre.
Et d'ailleurs, les voisins et les voisines, si vous êtes francophones installés dans les pays d'Europe du Nord, vous pouvez bien sûr nous appeler pour nous raconter comment vous vivez au 33 7 64 45 51 41. Nicolas Escache, Méline Ridal, le Hugues, vu par des Français, on nage en pleine caricature, Nicolas Escache.
Bah déjà, le hugueux, c'est une construction qui s'est établie.
Ça veut dire quoi, le mot?
Alors, hugueux, c'est finalement le bien-être. Alors, ça recoupe plusieurs choses. Hein. C'est la sécurité, parce que les Danois ont un besoin de sécurité. Donc, le sentiment d'être bien à la fois chez soi, mais aussi avec les autres. Le hugueux, c'est à la fois le hugueux à l'intérieur de la maison, mais c'est aussi le hugueux national. Donc, il y a une communauté des Danois qui partagent ce bien-être. Donc, c'est la quiétude, la sécurité. Et les Danois ont besoin de sécurité parce qu'ils ont une histoire compliquée de rétraction de leur territoire. Et donc, ils ont défini finalement ce bien-être et ce sentiment d'être en communauté.
Ça vous énerve, vous, Méline Ridal, la façon dont on perçoit ce Hugues en France?
Non, ça m'énerve
les
pas.
Les matières chaudes, laine, le bois.
Je dis toujours que c'est pas une solution facile au bonheur, bien évidemment. C'est un moment de plaisir plutôt. Et effectivement, comme Nicolas, il dit, c'est l'être ensemble, un moment simple de partage. Et souvent, comme on est au pays nordique, devant le feu de cheminée, oui, les bougies, etc., oui, sont des ingrédients.
Peut-être d'ailleurs plutôt le poêle à bois, non, qui serait plus efficace pour réchauffer les maisons qu'un feu de cheminée, non?
Oui, éventuellement, mais c'est en tout cas, c'est des moments où on se ressemble. Et en fait, le hygge, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut que ça soit inclusif et pas exclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le champagne et le caviar là-dedans. Mm. Et c'est aussi un moment où on ne se vante pas de ses exploits. Mm. Donc, où on cherche ce qui nous lie et pas ce qui nous différencie. Donc ça, ça fait vraiment partie de ces moments du hygge. Hygge, par ailleurs, c'est un mot qu'on prononce en danois aussi souvent que le mot sympa en français. Un pull peut être sympa et un pull peut être hygge. un endroit est sympa, une personne. Donc on l'utilise vraiment à toutes les sauces, ouais. Je dirais. Ouais.
Et la maison hygge, ça serait quoi pour vous? Et qu'est-ce qu'elle a de différent d'une maison standard européenne, d'un français moyen, d'un italien moyen?
C'est d'être connecté à soi-même et aux autres. En fait, oui, c'est la collectivité.
Concrètement, la maison.
Concrètement, la maison, c'est un coin confortable. Il y a le confort qui est très important, des vêtements confortables, un coin où on est bien assis, où on peut connecter. C'est souvent, effectivement, pour le côté convivial, autour de boisons. Il y a la version hiver qui est plus connue, bougies, boissons chaudes. Mais il y a la version été qui est assis par terre. La version été, c'est ici, assis sur la pelouse sans tapis et boire une bière à la bouteille.
Oui.
Donc ça, c'est la version hygge.
C'est possible sur un lac, ça serait encore mieux.
devant
un lac. Nicolas Escache, vous dites dans votre livre que quand on découvre l'Europe du Nord, les pays scandinaves, on a une sensation d'habitat très uniforme. Ça ne saute pas aux yeux la différence entre les maisons des gens riches, les maisons des Danois ou des Suédois moyens.
Oui, c'est en fait il y a une forme de conformité, de conformisme dans l'habitat. Il n'y a pas d'ornemental. L'habitat français est très ornemental. On y met beaucoup d'enjeux. On y met ce qu'on est, on y met son niveau social, on y affiche son niveau social. L'habitat nordique, il est très conformiste. On retrouve finalement la même lampe au même endroit, les mêmes mobiliers. Alors ça peut être des mobiliers nationaux, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve au Danemark, par exemple, un certain nombre de mobiliers qui ont été faits à la fois par des designers, mais qui ont été aussi popularisés très largement. On peut retrouver aussi un certain nombre de traits régionaux, par exemple des peintres régionaux. Mais c'est vraiment, on va retrouver d'une maison à l'autre les mêmes éléments.
Ouais. Évidemment, dans tout ce que vous dites, on pense Ikea, d'ailleurs, dont les produits sont majoritairement fabriqués en Chine aujourd'hui, mais à l'origine, c'est vraiment ça?
Oui, c'est un principe d'égalité, en fait. Un principe d'égalité, en tout cas, tel qu'il est établi dans l'intérieur. Évidemment, ça met en évidence ce sentiment de faire partie de la même communauté et de niveler un petit peu. Alors, ça traduit aussi le fait que dans les pays nordiques, vous n'avez pas d'écarts sociaux comme on trouve en France. En tout cas, vous n'aviez pas, parce que l'État-providence tel qu'il a été conçu juste avant la Seconde Guerre mondiale et tel qu'il a été appliqué après, a été très largement démantelé. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de disparités, d'inégalités. Mais au départ, on avait tendance à dire dans les pays nordiques, il y a un ventre mou de 90%, classe moyenne qui vit bien. Et puis, il y a 10% de très riches et très pauvres. Donc, les écarts sociaux étaient moins forts. Et donc, forcément, ça participe aussi de ce nivellement qu'on voit dans l'habitat.
Ouais. Ça se voit aussi au niveau de l'urbanisme. Le Danemark est connu pour ses très nombreuses pistes cyclables. On va beaucoup travailler à bicyclette.
Vous avez à peu près 50% de la population au Danemark qui se déplace à vélo comme étant le premier moyen de transport de la personne.
Y compris en plein hiver, hein, il faut bien
spécifier. En plein hiver, là, c'est toute l'année, neige, etc. Donc, on s'habille pour. En fait, le temps, ce n'est pas un critère pour nous de prendre le vélo ou pas. Et à Copenhague, vous avez jusqu'à 68% des habitants qui se déplacent vraiment pour le coup à vélo pour aller à l'école, au travail, etc. Et c'est la même chose qui est intéressant souvent, c'est pour les parlementaires. Donc vous avez 65% des parlementaires au Danemark qui vont au Parlement à vélo. Donc pas de chauffeur ni même voiture, mais tout simplement à vélo. Donc c'est une culture de simplicité, effectivement, on s'égare facilement, la ville est conçue pour le vélo.
La ville est conçue pour et la ville est tourner vers la nature ou pas tant que cela. Comment se fait-il, Nicolas Escache, que les populations alors de Scandinavie, mais pas que, hein, Suède, Norvège, Danemark, mais également Finlande, Islande aussi, alors qu'on est beaucoup plus au nord, soient, y compris en plein hiver, très tournées vers des activités extérieures. L'activité la plus connue en Europe, c'est la marche nordique, hein, qui est très populaire aujourd'hui dans un pays comme la France.
Bah d'abord, c'est lié à l'histoire de ces pays. Hein. C'est au départ des communautés qui sont des communautés qui vivent en pleine nature, qui utilisent les ressources qui les entourent pour construire leur habitat. Hein, le bois, par exemple, la pêche, je pense à la Norvège, hein, par exemple. Donc les matières premières ont un rôle important. C'était des communautés qui étaient isolées les unes des autres. Donc la nature a eu un rôle essentiel dans leur construction. Il a fallu l'affronter, y compris dans sa difficulté, dans sa violence aussi. Et c'est aussi le fait que c'est des petites villes. On trouve dans les pays nordiques des petites et moyennes villes. Donc la nature, elle est présente, omniprésente partout. Et c'est facile de quitter la ville pour aller faire du ski. C'est-à-dire qu'une ville de 100 000 habitants, par exemple dans les pays nordiques, c'est souvent la deuxième, troisième ou quatrième ville du pays. Alors que chez nous, c'est plutôt des villes de taille moyenne. Donc ça conditionne bien entendu l'accès à la nature. Et puis il y a aussi le fait que la nature, outre le fait que ça fait partie directement de la construction de leur identité, c'est également un espace, je dirais, d'égalité, de démocratie. C'est-à-dire qu'en Suède, on a ce concept de allemansrätt, c'est-à-dire le libre accès à la nature, donc le fait de pouvoir traverser les espaces, y compris les espaces privés, pour pouvoir se promener. Et ça, c'est un outil de démocratisation, la nature.
Il n'est pas rare, je pense notamment à la Norvège, où pour rejoindre son campus universitaire, entre le logement étudiant et le campus universitaire, en dehors des capitales, de la capitale, hein, il faut parfois marcher une demi-heure en plein hiver dans le froid. Aucun étudiant n'aurait l'idée de se plaindre. En France, ça serait la révolution. Il n'y a pas de bus pour nous emmener de notre chambre d'étudiant à l'amphithéâtre. Comment c'est possible ?
Oui, tout à fait. Et puis les aménagements sont faits aussi pour les cyclistes, pour les piétons. La ville scandinave, elle comprend ces grandes continuités cyclables ou piétonnes. Il y a un travail sur les espaces publics qui est absolument formidable aussi.
Avec de la concertation
avec
des
de la concertation et qui part de l'usage. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la fonctionnalité, c'est partir de l'usage, partir des usagers, donc partir des citadins, du trajet qu'ils vont faire, des obstacles qu'ils vont rencontrer, pour construire la ville. Et ça peut passer par plein de petites choses. Ça passe par des infrastructures lourdes, mais ça passe aussi par du design, par exemple, cyclable. Ça passe par des micro-espaces publics. Ça passe par du mobilier urbain. Ça passe par des couleurs dans les villes. Ça passe par la présence de la nature dans la ville. Donc, ça rend tout ça plus agréable. Ça rend tout ça plus pratique. Et forcément, on la pratique d'une autre manière.
Il y a du travail pour les pistes cyclables à Paris, Méline
C'est
Ridal.
C'est en cours.
Oui, vous avez encore ce recul, vous qui vivez en France depuis tellement longtemps, ou pas ?
Le recul pour accepter ces changements qui sont en train de se faire à Paris.
Oui,
absolument.
Des choses qui vous choquent ou pas.
Je fais partie des rares personnes qui acceptent le désagrément de la transition de ce que nous sommes en train de faire avec la ville de Paris. Et c'est aussi désagréable pour moi que pour d'autres de me trouver coincée dans des queues, etc. Mais j'accepte parce que je trouve que c'est la bonne direction. Je sais que il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec ça, mais je vois plus loin et je trouve que c'est une bonne chose.
Quand vous dites « je l'accepte » en tant que Danoise, ça veut dire que dans votre idée d'acceptation, ce n'est pas une incapacité à protester, mais c'est une capacité à vous projeter sur l'idée du bien commun ?
Oui. C'est la collectivité. C'est ce que je trouve être bien pour le commun. Et donc ça, ça l'importe. Et ça, c'est très... d'ailleurs, dans la culture danoise et d'ailleurs, de manière générale, dans la culture protestante, c'est la collectivité qui prône.
Ouais.
Donc on a une responsabilité individuelle de la collectivité. Je le ressens très fort. C'est pour ça que le Covid, etc., pour revenir là-dessus, c'est un non-sujet pour moi, dans le sens que c'est une évidence que je me vaccine et c'est une évidence que je fais ça au nom de la collectivité.
Oui, et que vous portez le masque. Le masque, c'est vraiment le symbole de je me protège moi, mais surtout je protège l'autre. Hein. C'est réversible le masque. Donc on est soi-même masqué dans la collectivité. Il n'y a pas eu de masque en Suède. Il n'y a toujours pas de masque pratiquement.
Ouais, d'abord, les Suédois ont un certain conformisme. Donc quand il y a des mesures qui sont prises, ils les appliquent. Et donc forcément, il y a moins besoin peut-être de prendre des mesures contraignantes. De toute façon, la notion de contrainte serait mal acceptée. Donc il y a une sorte de responsabilisation aussi individuelle qui est forte. Il y a aussi un pragmatisme qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que la question sanitaire est à mettre aussi au regard de questions économiques, d'acceptation sociale, voire d'évolution du moral collectif, je dirais. Et ça compte. Et puis, il y a l'équilibre suédois. Dans la tradition suédoise, il y a toujours ce côté, voilà, on ne va pas trop loin, ni dans un sens, ni dans l'autre. On essaie de concilier les équilibres. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de démontrer par leur gestion de la crise. C'est une forme de gestion équilibrée. Alors aujourd'hui, il est trop tôt pour dresser le bilan.
Oui,
mais,
c'est ça. Mais avec des limites sanitaires tout de même, notamment sur les personnes âgées qui ont quand même été assez sacrifiées. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41, si vous êtes francophone et que vous habitez dans un pays d'Europe du Nord. On accueille Tito, qui habite à Stockholm, en Suède, justement. Bonjour Tito.
Bonjour.
Vous avez 37 ans, vous êtes congolais, vous êtes marié à une Suédoise, c'est bien ça ?
Oui, exact.
Que vous avez rencontré à Kinshasa et vous avez fondé une famille, vous avez deux enfants.
Oui.
Alors, quel est votre regard de congolais sur la Suède ? Ça nous intéresse.
Déjà, il y a la culture qui est très différente entre les deux pays. Mais c'est là aussi ne m'a jamais empêché de m'adapter, autant plus que la Suède, c'est un pays que moi je trouve très accueillant. Les gens sont gentils, sont polis. Il fait très attention à ce qu'il dit aux gens. Ils sont très respectueux et ils sont prêts à aider. Mmh. Donc, moi, ça m'a permis d'être, voilà, de bien m'installer, quoi, en fait.
Mmh. Et qu'est-ce que vous faites comme travail, Tito ?
Ben, moi, je suis entrepreneur culturel, mais pour le moment, j'étudie. En fait, je suis en train de faire des études.
Et vous avez eu l'occasion déjà de travailler, de vous confronter au monde du travail en Suède ?
Non, pas encore.
Alors finalement, qu'est-ce qui, malgré tout, est difficile pour vous ?
Je pense que c'est le climat, en fait, parce qu'on a quand même l'hiver qui est trop long et il fait très froid. D'ailleurs, ça commence déjà ici. Et puis, l'été, c'est beaucoup plus court, quoi. Ben après, il y a un côté positif pour l'été. On a 20 heures de soleil et il fait beau, quoi.
Mmh. Merci beaucoup, Tito, d'avoir été en ligne avec nous. Vous pouvez continuer de nous appeler pour nous raconter votre vie dans un pays scandinave, dans l'Europe du Nord plus largement, au 33 7 64 45 51 41. Nicolas Escach, et je vous pose aussi bien sûr la question à vous, Méline Ridal, les horaires, finalement, quand s'arrête le travail, quand commence la vie de famille ?
Bah, on commence plus tôt en règle générale, donc on va peut-être commencer à 8 heures au bureau, mais il n'est pas rare de quitter à 16 heures, même voire à 15h30 si c'est pour aller chercher les enfants à 16 heures. Moi, je sais que mon petit-neveu, quand je vais le chercher, c'est à 15h30, donc il faut partir avant. Donc c'est des journées plus courtes, surtout quand on a des jeunes enfants.
Et qu'est-ce qu'on fait alors ensuite ?
Ensuite, on a une vie, c'est là où intervient l'équilibre vie privée, vie de travail. C'est qu'on a une vraie vie après où on va chercher les enfants, on dîne avec eux plutôt vers 18h, 17h30, 18h, on dîne ensemble en famille, on couche les enfants. Et après, ceux qui sont cadres ou qui travaillent beaucoup, ils peuvent retravailler peut-être une heure pour équilibrer tout ça. Mais c'est surtout la confiance qu'on fait, on traite les gens comme des adultes en fait. On dit, bon, il y a cette phase de la petite enfance où il y a un rythme qui s'impose et donc la société y fait pour et donc le marché de travail aussi. Donc les sociétés adaptent ce besoin. Donc,
c'est l'entreprise qui s'adapte à la vie de famille des salariés.
Bah, d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Mais le télétravail au Danemark était très répandu bien avant le Covid. Hein, il y avait.
Vous expliquez, Nicolas Escache, dans votre livre, que ces journées relativement courtes hein, n'ont rien à voir avec le syndrome de la réunionite aiguë en France. Même si, avec le télétravail, on a tendance quand même à aller davantage droit au but en France. Et que pour l'entreprise, avoir des salariés qui ont une vie en dehors du boulot, c'est-à-dire ça peut être des activités associatives, du sport, ça enrichit en retour l'entreprise. Comment c'est possible concrètement ?
Exactement. En fait, en France, on a un rapport doloriste voire christique au travail. C'est-à-dire que celui qui travaille bien, c'est celui qui reste tard, c'est celui qui devient presque malade de travailler. Alors que dans les pays du Nord, on considère que lorsqu'on n'a pas terminé son travail à 15h30, c'est qu'on n'a pas été efficace, quoi. En fait, l'efficacité, c'est de faire beaucoup en peu de temps. Hein, c'est une forme de frugalité du temps, quoi. Et après, on se ressource, on profite de sa famille, on va dans la nature. On parlait de la nature tout à l'heure. Voilà, on va faire du sport. En Norvège, par exemple, c'est le Friluftsliv. On va à l'extérieur.
Travers des clubs, des associations.
Des associations aussi, on se nourrit. Et le fait de pouvoir aussi avoir un temps de travail réduit ne va pas à l'encontre de la productivité. Vous avez en Suède des expérimentations, par exemple, sur des journées de 6 heures. 6 heures, Et effectivement, ça fonctionne. C'est-à-dire que les entreprises ont des taux d'efficacité qui sont comparables. Parce que le fait de s'être ressourcé, le fait d'avoir amené des compétences qu'on a construites par ailleurs, le fait d'être bien aussi dans sa peau, de pouvoir amener aussi son énergie et concentrer son énergie sur un objectif, là aussi c'est pragmatique. Hein. On a un objectif, on concentre son énergie dessus. On ne va pas être dans la déperdition. Bah, ça, c'est gagnant. Et puis c'est une ambiance au travail qui est bien meilleure.
Le Danemark, c'est un des pays au monde où les gens sont le plus membres d'une association. C'est-à-dire que quasiment tout le monde participe à une forme de travail de bénévole. Donc souvent dans des associations, ça peut être d'être entraîneur d'une petite équipe de foot pour les enfants ou autre, où on participe à la société. Alors moi, quand j'étais petite, je jouais à la flûte et j'allais dans des maisons de retraite et je jouais des petites mélodies pour les personnes âgées. Mais c'est-à-dire que ça s'inscrit tellement. Je sais que mon père, qui était par ailleurs avocat, il avait toute une vie à côté dans le sport, dans les associatifs. Enfin, il était extrêmement actif dans ce côté collectivité, association.
Ouais. Méline Ridal, il y a un chiffre que vous citez souvent. 78% des Danois font confiance à leur entourage contre 22% en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, on voit le mal partout ou pas ?
Oui, et d'ailleurs, quand j'explique le bien-être danois, d'ailleurs, c'est un des piliers, c'est vraiment la confiance. Parce que c'est la manière dont vous abordez l'autre. C'est ce que vous pensez de l'autre. Et quand vous pensez à 80% que l'autre est quelqu'un de bien, à quel vous pouvez faire confiance à l'inconnu dans la rue, ça crée un contact bienveillant, simple. Et donc, à multiplication des gens qu'on croise, évidemment, ça crée une autre base de relation.
Ça désamorce des tensions,
ça désamorce des tensions, et on sait aujourd'hui, par de nombreuses études, que l'élément qui a le plus d'impact sur notre bien-être, sur une vie, c'est la qualité de nos relations. Et donc, quand on fait confiance à l'autre, on crée autre chose, parce que souvent, c'est évidemment quelque chose qui est réciproque après, quand on aborde quelqu'un. Et alors, au Danemark, nous n'allons pas le définir. On ne va pas dire « je te fais confiance » parce que c'est une base partagée. En revanche, moi, j'estime qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans que je vis en France, mon taux de confiance en France, à Paris, il est bien au-delà de 80%. Pourquoi ? Parce que depuis que je suis là, je cultive la confiance activement dans mon environnement. Donc, je crée une communauté de confiance. Je me comporte comme quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et puis, je m'applique à le faire. Donc, informer les gens, dire ce que je fais, faire ce que je dis. Et puis aussi, prendre ce risque. Et dans la confiance, souvent, les gens, quand ils font confiance, ils veulent que ce soit du 100%. Or, ça n'existe pas, sinon ce serait une garantie. Et ce n'est pas ça. C'est que accepter l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a une partie, quand je vous dis 90%, enfin 78% au Danemark, il y a 22% où ça ne marche pas. Donc, l'acceptation même de ces 22% conditionne le fonctionnement d'une société de confiance.
Nicolas Eskach, est-ce que cette notion de confiance, on la retrouve dans d'autres pays nordiques? Et est-ce que c'est la clé du consensus social, notamment au sein de l'entreprise, dans la cohabitation avec les syndicats, etc.
Oui, oui, c'est largement partagé sur l'ensemble de la zone. Je voudrais dire aussi que la confiance, c'est peut-être ce qui peut permettre de nuancer un peu la notion de modèle nordique, parce que à la fois, ça permet de tenir la population. Il y a un côté sécurisant, confortable, mais en même temps, ça exclut aussi ceux qui ne font pas partie de la tribu. Et on l'a vu sur les questions des migrations, par exemple. Au Danemark, des mesures très fortes ont été prises contre l'immigration en 2015-2016. La loi des bijoux, l'allongement du rapprochement de conjoints. Et ça a été aussi le passage de la confiance à la confidentialité. C'est-à-dire qu'on passe de la confiance entre les Danois à la confidentialité. On exclut les autres qui nous paraissent angoissants. On a appelé ça aussi le chauvinisme du bien-être. C'est-à-dire que le modèle de l'État-providence tel qu'il était conçu, il se referme, on le protège. Et donc, la confiance, ce n'est pas forcément seulement un aspect positif, c'est aussi un aspect très défensif.
Mmh. Et d'ailleurs, quand on vous écoute, on se demande si l'Europe aussi n'est pas dans cette posture-là de défendre son bien-être à l'européenne et bien évidemment ses acquis sociaux à l'européenne. Si vous êtes francophone, installé dans cette Europe nordique, appelez-nous pour nous raconter comment vous vivez, pour confirmer, pour déconstruire les clichés sur le bonheur dans ces pays, notamment dans les pays scandinaves. Vous nous appelez sur le WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après Tessa. Based off a boss bitch, ain't for den eneste inden for nummer et, som jeg har været på det seneste.
ned på knæ, hiver kjolen op, trækker trusen til side. Han siger okay. Say mama, jeg har endelig fået en hobby. At give de low life hoes noget at gå op i. Prøv at google, hvem der giver en fuck. Du kan være sikker på, at mit navn aldrig kommer op. Hvis de myrder mig, så smil, når du ser mig i min kiste. Vær sikker på, at jeg var fucking flabbet til det sidste. Jeg ved, hvad jeg bringer til bordet, så jeg er ikke bange for at spise alene. Tag mig på ordet, fordi jeg er ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, jeg er ben. Gør min ting, så alle ved, jeg er benhård. Ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Før var jeg problem, bare nu jeg bare ben. Gør min ting, så alle ved, jeg er benhård. B står for boss, bitch. A står for episk. N for normalt, når jeg overtager strategisk. Pæn pigen, til de trykker på bitch-knappen. Jeg slapper dem, tager Louis-task og Gucci-kiks fra dem. Brandvarm, kampklar, 24-7. Tag min hæl af, viser dem stiletter kan flyve. Du vil have mig ned med nakken, bare prøv. Taler bag min ryg, mens du er derom. Kan du kysse min røv? Jeg kan godt forstå, hvorfor du er fjendtlig. Jeg vil også være bitter, hvis jeg var så almindelig. Regel nummer et, fuck hvad de tænker. Kun en fræk fyr med stor pik får lov at lægge mig i længder. Smutter når han sover, tidlig om morgen. Ligger en tyver på kommoden og går ned og tager en vogn. Når han vågner op, så forstår han, jeg er ikke nogen engel. Mine vinger sidder foran, for jeg er ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, jeg er ben. Gør min ting, så alle ved, jeg er benhård. Ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Før var jeg problem, bare nu jeg bare ben. Gør min ting, så alle ved, jeg er benhård. Boss bitch, baby, nu er barn sat højt. Hvad så nu, tror du, du er varm bad boy? Om jeg er klædt i Fendi eller bare nattøj, så jeg mere ben, mere ben. Okay. Boss bitch, baby, nu er barn sat højt. Hvad så nu, tror du, du er varm bad boy? Om jeg er klædt i Fendi eller bare nattøj, så jeg mere ben, mere ben. Okay, jeg er ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, jeg er ben. Gør min ting, så alle ved, jeg er benhård. Ben. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg er ben. Før var jeg problem, bare nu jeg bare ben. Gør min ting, så alle ved, jeg er benhård.
Vous écoutez RFI, chez 7 milliards de voisins, on s'intéresse aujourd'hui au modèle nordique. Faut-il s'inspirer des pays nordiques pour être heureux, que ce soit la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège ou encore l'Islande? On en discute avec nos invités, Méline Ridal, danoise, auteure conférencière, spécialiste du bien-être et de la performance en entreprise, Nicolas Escache, géographe, urbaniste. Vous venez de publier La France à l'heure nordique aux éditions Les Pérégrines. Et Méline Ridal, vous aviez publié en 2014, Heureux comme un Danois. Pour parler de ce modèle nordique, on a voulu aussi savoir ce qu'en pensait notre correspondant français pour RFI dans la région. Bonjour Frédéric Faux.
Bonjour.
Vous êtes basé en Suède depuis plus de 4 ans. Vous vous déplacez régulièrement aussi en Norvège, en Finlande. Vous êtes aujourd'hui à Helsinki pour les besoins d'un reportage. Et vous vous êtes installé en Europe du Nord par choix personnel après avoir vécu en Amérique du Sud. Ça fait un sacré changement, non ?
Oui, c'est vrai, j'ai été attiré par ce modèle nordique. Donc, pour tout vous dire, avant de m'installer à Stockholm, j'ai été correspondant pendant 11 ans en Amérique du Sud. Donc, des pays très vivants, explosifs parfois, mais vous êtes confrontés tous les jours à l'écart qui sépare les super riches des pauvres. L'administration est déficiente, les transports en commun aussi, et puis à la corruption. Bref, il n'y a pas grand-chose qui marche, et la majorité des reportages que je faisais, bien, c'était sur des conflits politiques, le trafic de drogue, les forêts qui brûlent, ce genre de choses. Quand j'ai choisi de venir en Suède, c'était pour vivre une expérience inverse. Donc un pays où l'on respecte l'environnement, où tout fonctionne, où les riches, j'exagère un peu, hein, sont heureux de payer des impôts, avec une couverture sociale, et surtout des gens qui respectent les lois et les autres. Hein, c'est la confiance dont vous parliez tout à l'heure. Bref, c'était mon idée du modèle suédois.
Et c'est ce que vous avez trouvé ou vous avez été déçu par ce modèle suédois ?
Disons que j'ai trouvé ça, mais autre chose aussi. Hein. Alors par exemple, le civisme, c'est important en Suède, c'est vrai, mais bon, on a vu que les recommandations sur le Covid en Suède étaient loin d'être suivies par tous. Il y a de la redistribution, peu de gens se retrouvent à la rue, mais il y a aussi de profondes inégalités. Dans le système médical, il faut par exemple attendre des mois pour voir un spécialiste. Ici, les écoles privées sont en compétition permanente avec celles du public. Il y a aussi de plus en plus de retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quant au respect de la nature, un autre exemple, il est réel dans la population, mais pour prendre l'exemple de la Suède, qui dénonce la déforestation en Amazonie, elle coupe chez elle des centaines d'hectares de forêts boréales très anciennes en toute impunité. Et puis en fait, je continue à faire des reportages sur la violence et le trafic de drogue, car par exemple à Stockholm cette année, le nombre de morts causés par la guerre des gangs est presque équivalent à celui de Marseille. Bref, le modèle, il est un peu abîmé.
Et pourtant, quand on regarde le classement des pays les plus heureux du monde, qui est publié tous les ans, soutenu par les Nations Unies, on voit que la Finlande est régulièrement en tête. Le Danemark est numéro 2, l'Islande, la Norvège, la Suède. C'est un vrai tir groupé. Comment vous expliquez ça dans ce cas-là ?
Ouais, c'est vrai que ça peut paraître étonnant quand on parle, ça fait trivial, quand même de pays où l'hiver dure 6 mois, parfois dans l'obscurité complète, avec des taux de dépression records. Et où les gens qu'on croit dans la rue, bien, ils n'ont pas l'air particulièrement heureux. Alors, vous savez, pour parler de la Suède, il y a une culture assez conformiste. On aime bien être comme les autres. On fait confiance au gouvernement. On ne manifeste pas dans les rues. Alors, il faut peut-être poser une question. Est-ce qu'ils répondent qu'ils sont heureux parce qu'ils le sont vraiment ou parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut répondre à ce genre d'enquête ? Hier, justement, je parlais à une fonctionnaire finlandaise de ça. On n'était pas d'accord. Elle me disait, en fait, bon, peut-être que le mot heureux n'est pas exact, mais disons qu'on n'a pas de motif de se plaindre, ce qui est différent. Faites un sondage auprès des Français pour savoir s'ils sont heureux, ils auront tendance à répondre non, même si tout va bien, parce que râler, ça fait partie de la culture nationale. Donc méfions-nous des enquêtes sur le bonheur.
Merci Frédéric Faux, vous les avez rhabillés pour l'hiver, hein, ces Européens nordiques. Merci, très bonne journée à vous. Vous êtes basé à Stockholm, mais vous êtes aujourd'hui à Helsinki. En Finlande, alors, Méline Ridal lève la main parce qu'elle veut évidemment absolument réagir.
Non, surtout
vous
sur
êtes
la
danoise.
Non, je pense que le débat est forcément nuancé, mais je pense que la première chose quand même à établir, c'est que les sondages sur le bien-être, bonheur, sont pas heureusement basés sur la question êtes-vous heureux, parce que ça sera tellement erroné avec une subjectivité qui évidemment peut pas être une analyse. C'est basé sur des deux des économistes, des sociologues, etc. Je parle notamment de World Happiness Report, qui est un peu la référence, en tout cas celle que moi j'utilise. Donc c'est notamment sur la durée de vie en bonne santé, c'est sur justement le niveau de corruption, c'est sur le capital social, la relation à l'autre, est-ce que j'ai quelqu'un sur lequel je peux compter, c'est sur la liberté de choisir sa vie, c'est sur la mobilité sociale, donc c'est sur ces paramètres-là, et la question n'est aucunement posée dans le sens êtes-vous heureux ? Donc, ce n'est pas déclaratif. Donc,
à propos de la politique, de la gestion de la chose publique, je vous lis le message de Sam, qu'on n'arrive pas à joindre, qui souhaitait participer à l'émission. Il est originaire de RDC, il habite en Norvège. Lui, il est marié à une Congolaise et il est arrivé par regroupement familial. Et il nous dit, concernant la gestion de la chose publique, c'est un réel modèle dont le Congo pourrait s'inspirer. Le pays partage sa richesse avec ses citoyens. Il faut dire que la Norvège est particulièrement riche par rapport aux autres pays de la région, vu qu'elle a énormément
pétrole,
de...
Pétrole, gaz, oui.
Exactement, pétrole et gaz. Pour vous, Nicolas Escache, par rapport à ce bilan très contrasté de notre correspondant à Stockholm.
Ben, je partage un peu son point de vue, c'est-à-dire que pour moi la notion de modèle, elle est pas réelle, c'est un fantasme vu depuis la France, et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans le livre, c'est de faire à la fois une histoire de ce fantasme, mais aussi de montrer qu'on pouvait le dépasser, en allant voir vraiment ce qui se passe, au plus près du réel, avec ses contradictions. Il faut assumer les contradictions des pays nordiques et pouvoir reprendre le meilleur et essayer d'hybrider avec notre mentalité française qui est extrêmement différente. Donc je partage le point de vue du correspondant, surtout que on a parlé du pétrole et du gaz tout de suite, les pays nordiques ne sont pas les derniers à produire des énergies fossiles, à avoir une quantité de déchets absolument astronomique, hein. Ils produisent beaucoup de déchets par exemple. D'avoir à certains moments des contradictions sur la question des migrations, on l'a évoqué. Donc il y a énormément de choses qui sont sombres aussi dans ces cultures-là. Et j'ajoute que sur la question du bonheur, il y a de plus en plus de travaux sur le rapport entre le conformisme et la frustration. C'est-à-dire derrière ce conformisme de façade que tout le monde accepte, il y a aussi une frustration individuelle qui monte. Et ce décalage-là entre ce qu'on doit afficher ou ce qu'on attend de nous et ce qu'on est vraiment... peut créer des biais extrêmement violents.
Alors, je vous donne la parole, les voisins et les voisines, parce que je vous ai donné le numéro de téléphone tout à l'heure, 33 7 64 45 51 41. Si vous êtes francophone, si vous habitez dans un de ces pays d'Europe du Nord, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Islande, on accueille Jussi qui nous appelle, qui est franco-finlandais, qui habite à Turku, une petite ville de près de 200 000 habitants au sud-ouest de la Finlande. Bonjour Jussi.
Oui, bonjour à vous.
Est-ce que vous avez entendu le tableau assez, assez critique de notre correspondant en Suède sur le modèle nordique? Vous, comment vous voyez ça aujourd'hui? Vous habitez depuis très longtemps en Europe du Nord.
Oui, je suis au fait à peu près depuis 30 ans en fait, sur le Nord. Et je confirme en fait, les points qui ont été mis en avant. Une partie au fait du quotidien est quand même assez difficile à faire face.
Oui. Bon. Vous avez dit au Standard que vous souffrez du manque de diversité, que par exemple un pays comme la Suède avait 20 ans de retard sur l'intégration des étrangers.
La tendance au fait à intégrer les étrangers est quand même un point assez difficile dans ce pays.
Et en Finlande alors, puisque la Finlande c'est le pays du tourisme éducatif, hein, les pédagogues du monde entier viennent dans le pays où vous habitez pour voir comment se fait-il que les petits Finlandais aient de si bonnes évaluations en lecture, en mathématiques.
Alors en fait le système éducatif est absolument parfait, les budgets alloués au fait aux étudiants sont assez pesants, la structure au fait du système éducatif est bien pesante. Bon, après, sur un point de vue personnel, c'est à savoir quel est le niveau du bonheur de chacun.
Merci beaucoup, Jussi, de nous avoir appelé à propos de l'éducation. On parle en Suède d'enfants gâtés par le système, par les politiques sociales, par le fait que les étudiants ne payent rien, reçoivent même une subvention pour étudier. Comment faut-il comprendre finalement ce modèle nordique, Nicolas Eskache ou Méline?
Non, je voudrais juste préciser quand même avant, parce que c'est un point très important quand même dans la compréhension du modèle nordique, et donc avec l'exemple du Danemark, c'est que le but principal de l'école au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant et donner confiance en soi. Donc, cette frustration, forcément, peut exister, mais sera toujours moindre parce que à partir de l'âge de 6 ans, par exemple, on donne des cours d'empathie à l'école. Et donc, ce développement de pouvoir être soi et être aligné avec ce qu'on est et être fier de prendre un rôle dans la société, que ce rôle soit manuel, mécanique ou intellectuel, ça, il y a la même valorisation. Et c'est une très important compréhension de pourquoi ce modèle, quel que soit le niveau de pollution ou autre, dans la qualité de la vie d'un jeune enfant, de pouvoir être soi et être fier de l'être, quel que soit son niveau scolaire. On n'est pas en échec scolaire au Danemark parce qu'on n'est pas bon en maths. Et ça, c'est fondamental pour la compréhension de pourquoi on parle d'un bien-être danois ou scandinave ou nordique.
Nicolas Eskache, les politiques sociales, bon, on en parle évidemment beaucoup en France depuis des années, la flexi-sécurité pour les indemnités chômage, la formation professionnelle. Qu'est-ce qui a réellement inspiré les lois en France aujourd'hui?
Alors déjà, ce qui inspire les lois en France aujourd'hui, c'est plutôt l'État-providence d'après-guerre que l'État tel qu'il est aujourd'hui au Danemark ou en Suède, parce qu'il a été détricoté beaucoup, notamment dans les années 80-90, hein, une phase de crise dans les pays nordiques, et puis ensuite tout au cours des années 90 et 2000. Donc il est fantasmé très largement aujourd'hui, la situation sociale dans les pays du Nord commence aussi un peu à s'éroder. Après, on a évidemment, on s'est tourné vers ces pays-là, je pense, parce qu'ils étaient à la fois différents de nous et compatibles. Compatibles parce que l'État est affirmé et assez fort. Il a un rôle protecteur qui nous séduit relativement, mais avec un niveau de liberté, de libéralisme plus grand. Donc c'était à la fois la sécurité sociale à la française, un État protecteur, et le rapport des Français à l'État est relativement important, et en même temps un libéralisme, mais qui est, je dirais, plus compatible que peut l'être le libéralisme anglophone du Royaume-Uni ou des États-Unis. Donc ça a souvent été, les pays nordiques, un contrepoint aux États-Unis, à l'Angleterre, voire à l'Allemagne, plus compatible avec notre tradition.
Mais avec des services publics en Europe du Nord qui sont davantage réformés hein, par rapport à la France. En un seul mot, est-ce que le modèle nordique est soluble dans la mondialisation à défaut d'inspirer le reste du monde?
Moi, je parlerais plutôt de s'inspirer déjà dans les communautés, autour de soi, créer des petits groupes avec un taux de confiance élevé, avec justement la valorisation de tout le talent, donc le regard de l'autre, donc éviter toute forme d'élitisme face à l'autre, en tout cas quand on a des écoles élitistes. Pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, ça pousse le talent, etc. Mais que le regard à l'autre, le développement du talent n'est pas obligé de finir par une forme d'élitisme, de penser que les autres sont en moindre valeur. Donc je pense qu'on peut le créer à petite échelle et après, en attendant que ça se répand de manière plus large.
Et pour vous, Nicolas Escache ?
Je dirais en deux temps. D'abord, le modèle nordique, il s'est largement mondialisé. C'est-à-dire, c'est devenu un produit mondialisé parmi d'autres, avec ses fantasmes et son côté fabriqué. Et de l'autre, en même temps, par rapport à la crise, à la fois de la Covid qu'on connaît et aux crises climatiques qui sont largement face à nous et qu'on doit affronter, les valeurs nordiques, la question de la simplicité, de l'épure, de la connexion avec l'environnement, de la simplicité, du pragmatisme, de faire avec le réel, c'est des valeurs qui sont en train de monter très fortement et c'est normal que le modèle nordique soit au centre des préoccupations aujourd'hui.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Nicolas Escache. La France à l'heure nordique aux éditions Les Pélégrines. Méline Ridal, vous avez publié il y a quelques années « Heureux comme un Danois ». Dans quelques instants, le monde raconté par les enfants. On leur donne régulièrement la parole dans cette émission. Ça sera juste après la Danoise. Me, c'est son dernier single, en attendant la sortie de son prochain album, prévu en 2022. All of the blinds, bit of the wine, it's getting hard to see. Panic attacks and goodie bags, it's getting hard to breathe. Now how do you do? It's been a good while since I've seen you. We're getting older, are we? Passing the time, looking for signs up in the stars, watching over us. Oh, come on, easy rider. Lift your voice up to the sky. I know it's been a while now. Don't let the fear eat up your mind. I remember you. Ooh, give me goosebumps. Just like when we were young, I was in love with you. Ooh, gave me goosebumps. I still get it when I think of you. Beautiful dreams when we were teens, all of them swim in the river. Splash, wash out the past. Tell them it's us, you forgive her. I never thought something could hurt as much as it does. When love is over, but it does. Shake me alive, swallow your lies. Come on and show up. Release your hunger into the well. And come on, easy rider. Lift your voice up to the sky. It's been a while now, but you're a star. Come let it shine. I remember you. Give me goosebumps. Come unleash your glow in the sun. I was in love with you. Give me goosebumps. I still get it when I look at you. So come on, easy rider. Lift your voice up to the sky. Come on, easy rider, lift your voice up to the sky. And give me goosebumps, get yourself back in the moment, baby. Give me goosebumps, yes. I remember you. La parole aux enfants chez 7 milliards de voisins. Autour du micro de Charlie Dupiau, aujourd'hui des enfants discutent autour d'un thème philosophique comme l'amour, l'autorité, l'honneur. Cette fois, ils sont à Conakry, en Guinée, pour nous parler d'avenir. Avec Charlie, notre reporter, le dialogue commence alors qu'ils sont bloqués dans un gigantesque embouteillage. C'est la plaie de Conakry. Ténin, Mariam, Djenaba, Meria, Kabiné ont entre 6 et 13 ans et ils rêvent parfois d'ailleurs.
RFI.
Le monde des enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
Embouteillage.
Laisse-moi.
Les voitures sont arrêtées là-bas.
Moi, je vois ça souvent.
Presque tous les jours.
Deux fois, je me lève à 6 heures et je pars à l'école avec mes petites sœurs. Deux petites sœurs, je rencontre des embouteillages à Anta ou à Sangouya. Deux fois, je rentre à 8 heures. Je mets parfois 2 heures ou 1h30. Parfois, j'ai peur d'arriver à l'école parce que lorsque j'arrive à 8h15 et on me sanctionne encore. Deux fois, je balaye la cour et deux fois, on me frappe. Le gardien de l'école.
Il te frappe?
Oui, sur mes fesses.
Parce que tu es en retard?
Oui. Même s'il y a des embouteillages, je suis obligée de partir à l'école.
Quand on part à l'école, il y a l'embouteillage. Je ne me sens pas bien.
Parfois, je me sens stressée. Et j'ai chaud dans la voiture. Les embouteillages causent des accidents.
Ouais. Moi, je n'aime pas les accidents.
Des fois, j'en ai marre même de partir à l'école, mais on n'a pas le choix. Il faut partir à l'école pour chercher l'avenir.
Si tu ne pars pas à l'école, tu ne peux pas étudier.
Oui. Et c'est important pour vous d'aller à l'école?
Oui, tous les jours. Sauf samedi et dimanche.
Car si on ne part pas à l'école, tu vas rester à la maison une heure. Les gens ne vont même pas te respecter.
Vous aimeriez aller, vous, jusqu'à quel niveau à l'école?
Moi, on veut finir mes études et travailler et être une infirmière.
Moi, je veux partir jusqu'à l'université.
Moi, je veux partir jusqu'à terminale.
Moi, je voudrais devenir docteur.
Moi, je veux travailler au bureau.
Au bureau. Et vous, les garçons, alors?
Moi, ministre.
C'est lui qui n'a pas dit.
Ministre.
Moi, je veux être président.
Ok, on va avoir un ministre, un président. Ça veut dire quoi l'avenir, le mot l'avenir pour vous?
C'est ma vie.
L'avenir, c'est le travail et le bonheur pour tous.
Comment vous voyez l'avenir alors? Qu'est-ce que vous espérez pour votre avenir?
Moi, je veux vivre à l'Amérique.
Moi, je veux vivre à France.
Moi, je veux partir à Dakar.
Depuis tout petit, j'ai rêvé de partir en Amérique.
J'ai entendu que les Américains sont beaucoup gentils et fabriquent beaucoup de choses. Leur chanson me plaît beaucoup. C'est pour cela que je veux aller à l'Amérique.
Même moi aussi. Moi, je veux rester en Guinée.
Je ne pars pas à l'Amérique. Je laisse à la maison pour aider mes parents.
Moi, je veux aller à l'Amérique pour me marier là-bas. J'aime pas les choses de la Guinée. Comment les Guinéens font? J'aime pas. Comme le courant, parfois il n'y a pas de courant. Parfois on se couche avec des torches. Il n'y a pas de lumière pour se laver la nuit.
J'ai entendu encore que là-bas, la plupart des gens parlent en anglais. Et moi, j'aimerais parler en anglais.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 5, 7.
Le Monde des Enfants, un rendez-vous proposé par Charlie Dupio et un podcast à retrouver tous les épisodes du Monde des Enfants sur les plateformes de téléchargement. Lundi, 7 milliards de voisins. Je laisse justement le micro à Charlie Dupio qui vous donnera la parole sur l'amour au troisième âge. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Merci à vous tous. À lundi, les 7 milliards de voisins.